My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I'll show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Salut à vous, chers auditeurs et chères auditrices des enfants du Nouveau Monde. Alors on se retrouve en 2018, que je vous souhaite d'ailleurs délicieuse. Et pour commencer, avec les nouvelles bonnes résolutions de cette année, et notamment pour tous ceux qui sont en couple ou qui y aspirent et qui cherchent à s'améliorer dans la communication intime, eh bien c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui pour commencer l'année avec Carole et Serge Vidal-Graff, ce couple qui habite maintenant notre région, qui nous viennent de Suisse et de Belgique et qui sont arrivés dans notre région depuis un an ou deux. Ils sont psychosexologues et thérapeutes de couple. Bonjour Carole.
Bonjour.
Et bonjour Serge.
Bonjour.
Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors vous, donc c'est vraiment votre métier, la communication intime dans le couple. Depuis les années 90, autant dire que vous en avez accompagné des gens sur ce chemin de comment se dire, de comment mieux se connaître et de comment arriver à tisser la relation à deux. Il y a une première chose que vous partagez dans votre livre « Mais tu ne m'avais jamais dit ça », un livre croustillant, super agréable à lire, très ludique et qui donne vraiment des pistes pour avancer là-dessus. La première chose, c'est « Faire l'amour, ça s'apprend ».
Oui, ça, faire l'amour, ça s'apprend. Et malheureusement, nous sommes dans une culture où il y a peu d'attention qui est mise dans cet apprentissage. En termes de boutade, je fais souvent la comparaison avec le permis de conduire. On est beaucoup plus exigeant dans notre culture pour apprendre à conduire une voiture que pour devenir amant, pour faire l'amour. Et c'est dommage parce que voilà, ça s'apprend comme tout le reste. C'est une croyance bien ancrée et dont les conséquences sont dramatiques de penser que, en particulier les hommes, que nous avons la science infuse et que on sait par nature comment faire l'amour et comment bien faire l'amour. C'est tout à fait faux, ça doit s'apprendre et ça peut s'apprendre.
C'est vrai que cette métaphore avec la voiture est particulièrement croustillante. J'ai adoré, je me suis poilée en lisant ce passage où on imagine, l'exemple, c'est comme si on donnait un peu au nouveau conducteur avant même qu'il ait passé aucune leçon les clés de la voiture en lui disant « Allez, vas-y mon gars, tu vas t'éclater, ça va être super !» sans lui avoir expliqué rien du tout, ni du code de la route, ni de comment fonctionne une voiture. Et comme vous le dites, dans la plupart des cas, il va se contenter de faire vroom vroom sans même sortir du garage. Ça risque d'être compliqué. Carole,
oui,
tu voulais ajouter ?
Je pensais aussi, effectivement, ce besoin d'apprendre. On le voit bien maintenant aujourd'hui avec le boom d'Internet, les adolescents qui vont encore et encore sur des sites pornographiques pour apprendre.
Bien sûr.
Parce qu'ils ont peu d'autres alternatives. Et même s'il y a des cours d'éducation sexuelle, et tant mieux, c'est encore beaucoup axé sur la prévention des grossesses, la prévention des maladies, plutôt que sur le plaisir.
Ouais, tout
mais
à
ça
fait.
Commence.
On commence à aborder la question du plaisir.
Oui, je pense.
L'éducation sexuelle.
Oui, oui, oui. Dans certaines écoles, avec certains professeurs.
Et alors, comment vous voyez, ça, c'est une question qu'on peut se poser, le modèle parental, justement, de ce point de vue-là, comment enseigner aussi à nos propres enfants la tendresse, la sensualité, etc. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas, qu'est-ce qu'on dévoile, qu'est-ce qu'on dévoile pas, à quoi on peut laisser nos enfants assister, jusqu'où, à quel moment ça devient intime, tout ça, ce sont des grandes questions.
Bah oui, c'est des grandes questions, mais je crois que c'est à chaque couple de décider. On est quand même dans une où on essaye de se dégager des grandes généralités, de la normalité, ce qui veut dire que tout le monde doit faire la même chose. Donc c'est vraiment à chaque couple de poser ses limites et de savoir, il ne faut pas non plus aller contre sa pudeur ou sous prétexte que les enfants doivent apprendre. Donc, je pense que les enfants, c'est surtout de l'imitation. Et donc, s'ils voient un couple de parents qui s'embrasse, qui se tient par la main, qui prend des moments pour eux, même qui va faire la sieste, ou bien des adolescents. Bon, alors, les adolescents, c'est beaucoup plus difficile parce que eux, ils sont en train de se découvrir et ils n'ont surtout pas envie de savoir de ce que font leurs parents. Donc, je crois. Donc, c'est difficile d'en parler avec ces adolescents.
Peut-être qu'il vaut mieux en parler avant, alors.
Oui, idéalement, oui. Ce serait faire en sorte que la sexualité soit un sujet abordable au fil de la vie. Mais ça reste très difficile quand même. Moi, je me pose la question de savoir si les parents sont les bons interlocuteurs. Parce que, justement, du fait que, quand même, à l'âge où on commence à s'intéresser à la sexualité, il y a une grande résistance à imaginer ses propres parents ayant encore des relations sexuelles. Sans parler des grands-parents, là, ça devient tout à fait inimaginable. Mais je ne suis pas sûr que les parents soient forcément les meilleurs interlocuteurs. Je crois que les enfants, les adolescents qui auront besoin d'apprendre seront plus à l'aise avec quelqu'un un peu plus extérieur, avec lequel ils auront un peu plus de distance.
Alors justement, vous, pour répondre à cette demande d'apprendre d'une population, on va dire jeune, hein, au-delà d'adolescente, mais vous avez mis votre dernier livre en téléchargement gratuit pour que tout le monde puisse y avoir accès et découvrir des clés pour que ça fonctionne mieux. Donc votre livre, il s'appelle « Couple rêvé, couple réel ». On va y revenir hein, sur votre bibliographie, mais j'en profite pour le dire maintenant. Une des choses que vous partagez dans vos livres et qui est assez intéressante et à laquelle on pense pas forcément, c'est qu'il y a plusieurs formes de sexualité. C'est qu'au fil de la relation, la sexualité évolue et passe peut-être d'une forme plus masculine au début, plus yang, plus feu, à quelque chose de beaucoup plus tendre, plus yin, plus réceptif dans un deuxième temps, pour qu'enfin, au bout d'un troisième temps où effectivement il y a eu du masculin et du féminin qui se sont rencontrés, deux façons de faire l'amour différentes qui se sont expérimentées, on puisse apprendre à danser avec ces deux façons-là.
Serge ? Oui, c'est effectivement une question qui nous apparaît comme fondamentale, puisque quand une relation commence, ce qu'on appelle la lune de miel, a pour conséquence que la sexualité va de soi, la sexualité est facile, tout coule de source, le désir est quasiment tout le temps là.
Il y a beaucoup d'excitation, voilà. On a tout le temps envie.
Voilà. Donc ce moment-là, ça se passe très facilement. Et en effet, la forme est généralement, entre guillemets, masculine. Alors, masculine, ça peut être la femme qui est porteuse de la dimension masculine du couple, mais la plupart du temps, ce seront quand même les hommes qui seront porteurs de cette dimension masculine. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ce sera parfait pour un certain temps, et puis ça va créer une lassitude, parce qu'il y aura quelque chose de prévisible dans la manière de faire l'amour. Et c'est à ce moment-là que la nécessité de passer à quelque chose, effectivement, entre guillemets, de plus féminin, se pose. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en tout cas tel que moi je le conçois et tel que je l'ai vécu personnellement, ça veut dire lâcher le mental qui est la caractéristique principale de la façon dont les hommes font l'amour. C'est-à-dire, nous les hommes avons tendance à faire l'amour avec un programme dans la tête, avec un mental. Je vais d'abord faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis elle aime ça, donc je vais faire ça. Ce qui est une manière peut-être généreuse, a priori, de faire l'amour, mais qui en réalité, à mon sens, dommage, parce que moins on est dans la tête, plus on est dans les sensations, et mieux ça va se passer. Donc la manière plus féminine consiste principalement, je trouve, à abandonner la dimension mentale et à venir dans quelque chose de plus sensuel, de plus... Qu'est-ce que je sens dans mon corps ? Et pour les hommes, c'est pas si facile.
Alors c'est là que le rôle d'initiatrice de la femme intervient, n'est-ce pas, Carole ?
Voilà, moi, si c'est la femme qui est porteuse du féminin dans le couple, oui, et puis on va dire... que les femmes ont peut-être plus de facilité à entrer dans cette manière de faire l'amour. Parce que dans notre livre, on parle de ça parce que c'est quand même un livre pour les couples qui font le choix de la durée. Donc c'est vraiment un livre pour les couples. Parce qu'effectivement, comme Serge vient de le dire, dans la sexualité d'un couple du début ou de deux personnes, il n'y a pas vraiment de problème. Ou s'il y en a un, on le met sous le tapis et on n'en parle pas. Donc c'est vraiment pour aller dans la durée, ce qui est quelque chose de très nouveau, hein, de vivre aussi longtemps ensemble. Alors c'est vrai que l'excitation peut revenir quand on veut faire des enfants, parce que là il y a un projet, hein, et donc il faut faire l'amour pour faire des enfants. Mais autrement, enfin dans le long terme, c'est vrai que la lassitude de la répétition, et c'est là que effectivement la sensualité, donc la lenteur, hein, qui est importante pour vraiment sentir. Le corps va plus lentement que l'esprit. Et aussi la parole. C'est pour ça que notre livre est aussi beaucoup sur la communication. Hein. Les femmes parlent plus que les hommes. On a trouvé ça. Elles ont un centre dédié à la parole dans le cerveau qui est plus grand que celui des hommes. Et donc, voilà pourquoi elles vont peut-être être plus en charge de la communication. Et c'était l'idée, mais qu'est-ce qu'on dit? Comment on le dit? Parce qu'on n'a pas l'habitude, hein, comme on a parlé tout à l'heure. Les adolescents, ils veulent pas trop en parler avec les parents. Ils en parlent entre eux. C'est encore quand même très maladroit et grivois, on va dire. Mm-hmm. Donc, de vraiment parler intime, c'est pas facile. Et c'était ça l'idée du livre. Et donc, voilà, une femme... c'est pas facile d'être une initiatrice dans la sexualité en tant que femme parce que, bon, maintenant ça commence, mais en tout cas à l'époque, on n'a pas de mode d'emploi.
Voilà, donc en fait on peut être initiatrice sans pour autant avoir l'impression d'être détentrice d'un savoir particulier ou d'une expérience énorme. En fait, initiatrice, c'est simplement se faire confiance, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses émotions et de les partager. C'est
exactement,
simplement ça.
Exactement.
Et d'inviter son partenaire à en faire de même.
Voilà, voilà. Et les hommes peuvent être très déstabilisés avec cette manière très tendre de faire l'amour parce qu'ils vont perdre leur érection. Alors,
est-ce que
ça reste sexuel
Voilà, parce que vous, c'est bien ce que vous dites, faire l'amour, ça dépasse largement la pénétration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on échange des mots doux, où on échange des câlins, où on est dans les bras, où on partage un moment intime, où on se livre, où on se met à nu au niveau de nos sentiments, etc., on est déjà dans faire l'amour.
Ah ben oui, pour nous, oui, la pénétration et l'orgasme, c'est un peu la cerise sur le gâteau.
Voilà.
Hein, mais il faut pas oublier le gâteau, c'est-à-dire si on est intéressé que par la cerise, c'est dommage, on va vite être écœuré. Tandis que le gâteau, il est super à manger aussi. Et le gâteau, c'est se mettre... Les corps aiment faire l'amour. Vous mettez deux corps dans un lit nu l'un dans l'autre, et si vous le laissez faire, ça va se passer. Ce qui va se passer exactement, on ne sait pas trop, mais ça va se passer parce que les corps aiment faire l'amour. Les corps aiment se toucher, aiment se caresser, aiment respirer ensemble. Mm-hmm. En tout cas, s'il y a une bonne alchimie.
Bien sûr. Et alors, une autre chose qui est importante dans cette sexualité plus féminine, alors, vers laquelle vous invitez les couples à s'ouvrir, à laquelle vous invitez les couples à s'ouvrir pour pouvoir durer, pour pouvoir se découvrir profondément, etc., c'est de laisser tomber l'objectif. C'est-à-dire une sexualité sans objectif, parce que justement, on court pas après un orgasme, même s'il y en a pas, c'est pas grave, on passe quand même du bon temps ensemble et c'est quand même délicieux. Ça remet en question aussi tout l'aspect, effectivement, qui est véhiculé aujourd'hui par la pornographie et par tout ça.
Oui,
Serge.
Complètement. C'est sûr que l'objectif est aussi quelque chose qui, à mon avis, est typiquement masculin.
Mm-hmm.
Il faut aller quelque part et il faut être clair sur là où on a envie d'aller. Puis on va mettre en place ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif. Donc laisser tomber l'objectif, c'est ouvrir des espaces complètement différents où il n'y a nulle part où aller. Et où simplement c'est profiter de ce qui est, de ce qui est là et de ce que les corps, comme Carole vient joliment de le dire, de ce que les corps inventent.
D'où la possibilité de non-lassitude, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, les hommes peuvent quand même projeter, puisqu'ils aiment ça, de passer une soirée avec leur femme, d'être dans les bras avec elle, de la voir nue, de la toucher, tout ça, ça reste... Mais il n'y a plus de programme. Et c'est ça dont les couples, à la longue, se plaignent le plus. Cette espèce de programme, quoi. On sait exactement combien de temps ça va prendre, comment ça commence, comment ça finit, et voilà.
Et effectivement, on en perd le goût.
Et donc, très concrètement, c'est important aussi de prendre l'habitude de simplement se mettre dans les bras l'un de l'autre nu, plutôt que de penser qu'il faut tout de suite faire quelque chose. Laissons le temps au corps d'apprivoiser ce moment, en ne faisant rien, mais en étant dans les bras l'un de l'autre et en respirant.
Alors, en respirant, c'est bien énigmatique tout ça, respirant, mais respirant comment?
On respire comme on veut, hein. Je veux dire, simplement, on peut respirer vite, halté, on peut respirer profondément. Maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qui se dit sur la méditation, pleine conscience, etc., on se rend bien compte que la respiration est fondamentale pour la présence. Et là, faire l'amour en laissant les corps parler, on est complètement dans la présence. Et donc, on peut respirer profondément, bruyamment. Je peux faire peur à personne, mais c'est vrai que... Ça peut, on communique aussi beaucoup. par le souffle, et laisser son corps bouger, vibrer, chanter même. Pourquoi pas? Créatif, retrouver le goût
du
jeu des enfants. Souvent, quand on devient adulte et qu'on se marie, qu'on a des enfants, on devient trop sérieux parce qu'on est parent et c'est quelque chose d'important et sérieux en quelque sorte. Mais alors, ça déteint sur tout le reste de la vie. On n'a plus le droit d'être amoureux, de le montrer, de se faire des petits bisous avec son mari et tout, parce qu'il y a les enfants qui sont là et on est papa et maman. Et c'est dommage parce que d'abord, on leur montre des parents qui sont
pas très fun,
pas très touchant et pas très amoureux. Et puis aussi, voilà, c'est important aussi dans le lit de rester des enfants. On s'amuse, quoi. Comme certains ont pu vivre dans leur enfance, on jouait à cache-cache sous les draps, dans les édredons, où on se bagarrait, on faisait
des batailles de polochons,
où on jouait aux animaux. Enfin, il y a tellement de choses à faire, quoi. Si on arrête d'avoir ce concept de comment ça doit être.
Et oui, déconditionner nos esprits, hein, de tout.
Là aussi,
bien sûr.
C'est vrai que le déconditionnement est un aspect essentiel, parce que on parlait tout à l'heure d'apprendre à faire l'amour, c'est surtout en grande partie désapprendre des a priori qu'on a par rapport aux images qu'on s'est construites sur la sexualité.
I want sexual.
Ouh, ça c'est sexy. Marvin Gaye, bien évidemment, avec Sexual Healing dans Les Enfants du Nouveau Monde, où on parle de sexe aujourd'hui. Et oui, parce que pour faire des enfants, il faut faire l'amour. Si, si, je vous assure. Et pour créer un nouveau monde joyeux, eh bien, il faut du plaisir et de l'amour. Beaucoup d'amour. Alors nous sommes avec Carole et Serge Vidal-Graff, psychosexologues et auteurs du livre « Mais tu ne m'avais jamais dit ça ». Alors vous, je trouve magnifique ce que vous apportez sur la question de la communication, parce qu'effectivement, être joueur, comme ça, on peut encore avoir ça, mais par contre, oser le dire, oser poser des mots dessus, oulala, ça, ça fait peur, parce que d'un coup, on a un peur de paraître vulgaire, ou de paraître je ne sais quoi, on est tous plein de fantasmes, plein de choses, mais de là, aller les raconter, les dire, les exprimer, ou même nos peurs, les choses qu'on n'a pas trop envie de faire, et puis on sent que le partenaire, lui, il aime bien, alors du coup, on s'oblige un peu. Donc il y a tout un tas comme ça de situations dans la vie sexuelle où il y a besoin de poser des mots et où c'est pas simple. Et donc grâce à votre livre, on se rend compte que bah ça s'apprend ça aussi. Et puis pour nous encourager dans cet élan, vous nous rappelez bien que le non-dit tue et que la parole guérit, et que pour qu'une relation fonctionne sur la durée, il faut vraiment pas laisser des non-dits gangréner l'histoire. Alors, j'aimais bien un de vos témoignages d'un couple que vous avez accompagné. Donc, ils ont pris une douche et ils s'apprêtent donc à se retrouver dans le lit, etc. Puis alors, elle s'assoit à côté de lui. Lui, il a une belle érection. Elle se dit « Waouh, il est beau mon homme, j'ai envie de le caresser, j'ai envie de m'approcher de lui. Mais je vais quand même me lever, enlever mon peignoir. » Mais elle dit rien. Alors lui, quand elle se lève, enlever son peignoir, lui, il se dit « Oula, mais elle s'en va. Finalement, elle a pas envie de moi. » Donc lui, il débande. Elle revient, elle voit qu'il a débandé. Alors elle est déçue, mais elle dit rien toujours. Et puis finalement, ils finissent par s'endormir sans avoir fait l'amour. Et tous les deux déçus, alors qu'en fait, à la base, ils avaient tous les deux un grand désir. Mais tout, comme il y a eu plein de petites choses qui n'ont pas été dites, ça a créé ces incompréhensions. Et je pense qu'on est nombreux à vivre ce genre de choses. Comment arriver à prendre l'habitude de dire ce qu'on vit? Parce que c'est vrai que quand on lit la façon que vous suggérez, c'est-à-dire de dire « Mon chéri, je te trouve merveilleux, j'ai envie de m'occuper de toi, j'ai envie de te caresser, je trouve ton sexe magnifique, par contre, je vais aller me déshabiller, je te quitte un petit moment et puis je reviens. » C'est tout simple,
oui.
Mais il faut juste prendre l'habitude.
Absolument. C'est vraiment, moi je trouve que c'est une décision à prendre. Je crois que l'immense majorité des couples, et c'est mon expérience personnelle dans le temps aussi, n'ont pas appris à mettre des mots sur le ressenti autour de la sexualité. Mmh. Et donc c'est vraiment, à un certain moment, une décision à prendre, je dirais, pas au moment où on va faire l'amour ou sur le point de faire l'amour, mais où de décider un jour, mais j'aimerais bien, l'un des deux dise à l'autre, j'aimerais bien qu'on prenne un temps pour parler de notre sexualité, j'ai des choses à te dire et j'aimerais t'entendre. Et évidemment que ce qui est intéressant à ce moment-là, vous y avez fait allusion tout à l'heure, c'est aussi de pouvoir aborder, spécialement de pouvoir aborder la vulnérabilité.
Oui.
C'est-à-dire qu'est-ce qui me fait peur, de quoi est-ce que j'ai envie ou pas envie, qu'est-ce que je crains qu'il puisse arriver au moment où on fait l'amour. Alors il y a mille peurs qui peuvent émerger, tant pour un homme que pour une femme, et de les nommer, d'être entendu là-dedans, fait que les peurs diminuent.
Bien sûr.
Et donc, petit à petit, à force d'apprendre à communiquer et à voir les effets bénéfiques, on va développer cette compétence.
Mmh. Et alors, vous invitez aussi à prendre des temps spécifiques pour parler de ça, en dehors de la relation sexuelle, Carole.
Ah oui, alors bien sûr, en tout cas au départ, c'est intéressant d'en parler en dehors de la relation sexuelle, parce que au moment de la relation sexuelle, on est vulnérable, on est ouvert, nu, hein. Et donc, c'est pas toujours le bon moment pour aller dans les questions de fond. Par contre, de trouver des moments en dehors de la sexualité, concrète, ça vaut la peine, mais ça vaut la peine pour tout. Alors, nous, on a mis au point un outil, on m'a dit, qui s'appelle l'écoute silencieuse. Alors, on l'a pas inventé, mais...
En tout cas, vous l'utilisez.
On l'utilise beaucoup, nous, et on l'a beaucoup transmis à des centaines de couples avec des retours extrêmement positifs dans la plupart des cas.
Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Oui, alors ça demande un petit peu d'entraînement au début, parce que c'est pas toujours facile à comprendre. Donc, l'écoute silencieuse, c'est un moment où les deux partenaires vont se parler Ils vont créer d'abord un endroit où ils vont pas être dérangés, donc pas de téléphone, pas d'enfants qui viennent. Il y a un couple qui nous avait dit, par exemple, eux, ils partaient dans la voiture, et puis ils se mettaient dans un parking, et ils parlaient là, dans le parking, ils faisaient leur écoute silencieuse là, parce qu'ils avaient 4 enfants, et que c'était impensable de le faire à la maison. Surtout qu'il y avait des enfants grands, donc c'est pas qu'ils vont à 8h30 se coucher. Et donc voilà, ils faisaient des écoutes silencieuses. Donc vraiment créer un endroit en sécurité, où on va pas être dérangé, et où l'un va parler pendant que l'autre va écouter, écoute silencieuse, c'est-à-dire ne va pas interrompre celui qui parle. Vraiment garder le silence. Et des fois, c'est parce que quand on se parle, comme ici, on partage questions, réponses, il y en a un qui parle,
ça rebondit,
etc. Là, c'est vraiment pas l'idée de la conversation, c'est vraiment l'idée du partage, et donc de parler au sujet de choses qu'on décide à l'avance, de thèmes dont on décide à l'avance. Alors, par exemple, ça peut être la sexualité. Nous, on le fait, disons, je vais prendre notre exemple.
Oui, votre exemple.
C'est le plus simple. Donc, nous, on se met une soirée comme ça. Et
Il faut savoir que cette soirée, vous la calez à l'avance et que vous prenez un rendez-vous régulier pour ça.
Alors, on prend un rendez-vous tous les mois, nous. Voilà, oui. Chaque couple peut décider 15 jours, un mois. Tous les 6 mois, c'est un peu peu, mais je dirais, tous les mois, c'est un bon rythme. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se parle pas en dehors. Hein. Mais je veux dire, là, c'est vraiment une soirée spécifique à notre couple. Donc, on se met dans notre salon, on débranche le téléphone et tout. On met une petite bougie et on a donc ces rendez-vous dans notre agenda. Mm-hmm. Et à la fin du rendez-vous, enfin de l'écoute silencieuse, on reprend nos agendas et on fixe le prochain tout de suite. Mm-hmm. Et un mois, c'est moi qui commence à parler, et le mois suivant, ce sera Serge. Donc, on alterne le premier qui parle, parce que ça, c'est une difficulté qui arrive quand on fait ces écoutes silencieuses, c'est que on a tendance, quand on est le deuxième à parler, de répondre au premier, ce qu'il ne faut pas faire en principe au départ.
C'est pas l'idée. Oui.
Et donc, moi, je vais commencer à parler, disons un soir, et nous, on aborde le sujet de notre vie amoureuse. Comment est-ce que je me suis sentie aimée? Comment est-ce que je t'ai aimée pendant ce mois qui s'est écoulé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a aimé faire? Qu'est-ce que j'ai aimé faire avec toi? Etc. Qu'est-ce qui m'a dérangée? Les choses sur lesquelles j'ai besoin de revenir?
Ça, en ayant lu votre livre, vous l'appelez le point de la vie affective, hein,
voilà.
C'est ça. Et donc, ça concerne tout ce qui est les émotions vécues. Ça peut être aussi des sentiments, un moment de jalousie qu'on a pu vivre. Ça peut être toutes sortes de choses agréables ou désagréables en lien avec les émotions, hein,
voilà, et avec la vie affective. Et puis, un deuxième thème, c'est la vie sexuelle. Comment j'ai vécu notre sexualité pendant ce mois? Est-ce que c'était assez fréquent, pas assez fréquent? Est-ce qu'il y a des caresses ou des choses que j'aurais voulu faire ou que j'ai pas faites ou que j'aurais pas eu envie de faire et que j'ai fait quand même? Ou est-ce qu'il y a une manière de... Enfin, tout ce qui est là présent par rapport à notre sexualité. Et puis ensuite, on a un thème plus général sur les enfants, l'argent, la maison, les projets, les vacances, voilà, où est-ce qu'on en est, nos vies intérieures. Et puis ensuite,
on en est toujours à toi qui parles. On a fait le tour de tous les sujets que tu abordes. Pendant ce temps-là, Serge n'est pas intervenu.
Il
est resté donc dans cette fameuse écoute silencieuse.
Voilà. Ce qui me permet, moi, d'aller dans les silences. Parce que voilà, je parle de quelque chose et puis voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire et il y a un moment de silence. Et dans ce moment de silence, c'est intéressant parce qu'il y a autre chose qui va venir spontanément, peut-être plus profond, plus intime, plus vulnérable, et qui va me permettre de partager ça avec Serge. Alors, je peux aussi poser des questions. J'aimerais bien que tu me parles de ça ou que tu reviennes sur cet incident qui s'est passé. Mais il ne répond pas tout de suite. Il attend.
D'accord.
Et donc, après, nous, on attend de dire « j'ai fini ».
Ok.
Et l'autre va commencer à parler. Et c'est ça qui est difficile, c'est que Serge, quand il commence à parler, ne doit pas répondre à ce que j'ai dit, mais lui aussi faire son bilan de la vie affective et de la vie sexuelle de notre couple pendant le mois qui est passé. Et seulement après, il va répondre aux questions, si j'en avais eu, me poser aussi des questions si lui, il en a, auxquelles je vais répondre quand il aura dit « j'ai fini ».
D'accord. Et vous pouvez finir par un moment d'échange un peu, où là, vous sortez de l'écoute silencieuse et vous pouvez être dans un partage un peu plus spontané de ping-pong.
Exactement.
Ok. Et Et pour conclure tout ça, vous reprenez rendez-vous pour le mois suivant.
Oui, et moi je voudrais encore insister sur l'importance du respect de la règle. C'est-à-dire, écoute silencieuse, ça veut dire que celui qui écoute vraiment respecte ça, mm-hmm. ne pose pas de questions, ne fait pas de commentaires. Et il y en a aussi, on a souvent parlé de ça avec des couples qui le pratiquent, on peut avoir des mimiques, c'est comme parler, oui. quoi. Je veux dire, donc
d'accord,
il faut
donc ça c'est interdit, on essaye de rester le plus neutre possible.
Alors, il ne faut pas aller jusqu'à être rigide, mais disons, il y a une manière non-verbale de parler qui est comme de parler. Si je fais comme ça, non, avec ma tête, même si je ne dis pas non,
évidemment.
C'est comme je suis en train de te dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, ce n'est pas le but. Donc mm-hmm. c'est vraiment de se mettre dans un état de réceptivité à ce que dit l'autre, et en ayant le confort de ne pas devoir préparer une réponse. Parce que souvent, une partie de notre qualité d'écoute se perd dans le fait que je suis en train de me dire « Ah, mais je vais dire ça ». Donc là, on n'a pas ça. Donc on écoute mieux. Mm-hmm. On peut se laisser davantage toucher par la parole de l'autre.
C'est ça. En fait, c'est rassurant. Parce qu'on n'est pas confronté. Voilà. Juste, on est invité à entendre, à accueillir, à recevoir. Oui. Et à aucun moment, on ne va exiger de nous une réponse.
Tout à fait.
Donc, c'est une nouvelle façon.
Il y a deux difficultés qu'on a reçues en retour des couples. C'est soit, mais moi, j'ai rien à dire, je sais pas le dire.
D'accord.
Et donc, je pense que c'est vraiment, il faut du courage pour le faire.
Oui.
Pour ces personnes qui ont de la peine à mettre des mots sur leurs sentiments, etc. Ça vaut la peine de persévérer parce que ça s'apprend.
Oui.
Le vocabulaire émotionnel s'apprend. Petit à petit, je l'ai vu chez des couples, ceux qui n'avaient rien à dire commencent. Alors, ils disent peut-être pas autant que celui qui a l'habitude de parler, mm-hmm. Mais ils y arrivent. Et l'autre difficulté, c'est oui, mais j'aurais des choses à répondre et je vais oublier. Et donc, alors là, soit on peut écrire pendant mm-hmm. que l'autre parle.
Prendre quelques petites notes succinctes,
notes,
mais
si
qui nous
veut.
Permettent de
oui,
nous
si
rappeler
ce qu'on a peur d'oublier. Mm-hmm. Et en même temps, souvent, quand on veut parler, ce sont des questions et on a la réponse. Parce que la personne, comme elle peut développer son fil tranquillement, elle va donner la réponse
qu'on attendait.
Parce que c'est souvent dans les couples, il y a souvent un taiseux qui croit qu'il a de la peine à s'exprimer, mais c'est parce qu'il manque de vocabulaire, et un qui parle beaucoup, 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 et facilement, de ses émotions en particulier. Mm-hmm. Et le souci dans ces couples-là, et pourquoi l'écoute silencieuse elle est aussi très importante pour ces couples-là, c'est que la personne qui a la facilité de parler pose des questions à celle, au taiseux, on va dire,
mm-hmm.
et comme la réponse ne vient pas, c'est elle qui fournit la
réponse.
Or
là,
elle fait le dialogue toute seule, mm-hmm. elle s'imagine des choses, et l'autre est là, et il dit rien, il s'enfonce de plus en plus dans son espèce de
mutisme,
parce qu'il est terrifié de mm-hmm. tout ce qu'il entend, et qui a peut-être rien à voir avec ce qu'il veut. Donc c'est aussi très important aussi, et difficile pour une personne qui a la facilité de la parole, de rester silencieux.
Le temps qu'il faut, parce que ça peut laisser des longs silences.
Exactement. Alors, il y a des couples pour qui c'est plus facile de, par exemple, définir le temps à l'avance.
D'accord.
De dire, voilà, moi, je vais parler un quart d'heure, tu vas parler un quart d'heure.
Mm-hmm.
Voilà. Il faut apprivoiser l'outil, c'est pas facile.
L'adapter à son propre couple et à ses besoins.
Et puis, ne pas hésiter à le transformer au fur et à mesure de la pratique.
Mm-hmm. Tout est transformable, sauf le principe du silence pour celui qui écoute.
Voilà, l'écoute silencieuse. Tout à l'heure, Carole, tu disais que on n'a jamais été aussi longtemps en couple. C'est quelque chose qui pourrait surprendre quand on dit ça, parce qu'on a l'impression que nos grands-parents étaient beaucoup plus longtemps en couple que nous, vu les séparations, etc. Aujourd'hui, vous expliquez ça dans votre livre, tout simplement par la prolongation de la durée de vie, et que c'est surprenant, mais d'après ce que vous écrivez, au 19e siècle, les gens ne restaient en couple qu'une dizaine d'années en moyenne, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de mortalité en couche, que les hommes...
La guerre.
La guerre, etc. Donc finalement...
Maladie.
Toutes sortes de choses qui faisaient que finalement...
Entre 4 et 10 ans, là, j'ai encore entendu Michel Serres récemment parler de statistiques que jusqu'en 1900, les couples restaient ensemble entre 4 et 10 ans. Et donc... Oui, nos grands-parents qui étaient du XXe siècle, eux, sont restés 40, 50 ans, 60 ans ensemble, mais c'était bien les premiers.
D'accord. Okay. Et c'est là qu'est arrivé le divorce.
Et c'est là qu'est arrivé le divorce, parce que les enfants de ces couples-là ont été terrifiés de ce qu'ils ont vu, parce qu'évidemment, ces personnes n'avaient pas les outils de communication, et donc c'était terrible.
Donc aujourd'hui, si on veut espérer vivre une vie de couple longue et joyeuse et créative et renouvelée, dynamique, etc., il est vraiment important qu'on apprenne de nouveaux outils pour que ça fonctionne.
Oui, parce que maintenant, il y a des tas de statistiques aussi aux États-Unis. Plus on devient intime avec quelqu'un, moins on a envie de faire l'amour avec cette personne. On le voit bien avec nos amis et nos amies. On n'a pas envie, peut-être au début, on a de l'attirance, mais plus les années passent, plus nos amis, on peut difficilement imaginer avoir une sexualité avec. Et ben, quand on, son partenaire, c'est un peu la même chose. Quand même, la finalité de la sexualité, c'est faire des enfants. Donc, quand on a eu tous les enfants qu'on voulait, surtout que maintenant on peut choisir, et c'est un grand progrès, ben, la sexualité, elle est, à quoi ça sert? Ça sert à avoir du plaisir. Alors, et donc, il faut s'y atteler pour comprendre comment avoir du plaisir, parce que c'est pas le même plaisir à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, ou à 60 ans.
Spinderella cut it up one time. Come on.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Well, let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't be coy, avoid, or make void the topic, cause that ain't gonna stop it. Now we talk about sex on the radio and video show.
Many will know.
Anything goes. Let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pat?
I doubt it.
Alright then, come on, spin.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you.
Make any man's eyes pop. She uses, she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. She should have been glad, but she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note that last night was dope.
Take it easy.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.
Pep, I don't think they're gonna play this on the radio.
And why not? Everybody have sex.
I mean, everybody should be making love.
Come on, now, how many guys you know make
love? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Ce qu'il est craquant. Et comme elle est merveilleuse. Au début. Et puis très vite, il devient parfois saoulant. Et elle, franchement, fatigante. Alors ça, je lui dis ou pas? La vie de couple et la relation intime ne sont pas qu'un long fleuve tranquille. On en parle justement dans Les Enfants du Nouveau Monde avec les psychosexologues Carole et Serge Vidal-Graff. Il y a quelque chose qui m'avait surprise aussi dans ce que j'ai lu de vous. Vous dites qu'il est très important, donc dans la dimension de la communication affective, de témoigner son amour, bien sûr, mais également de pouvoir se témoigner ses zones d'ombre, c'est-à-dire des moments où tu m'énerves, je te déteste, pour ci ou pour ça. Comment c'est possible de communiquer cela sans pour autant que ça vienne peser sur la relation ? C'est une question que je me pose.
Oui, c'est une question importante et qui a fait l'objet d'un livre que nous avons écrit sur la colère. Donc le titre était un peu provocateur, comment bien se disputer en couple. Mm-hmm. Ça partait de l'idée que ne pas se disputer dans la durée d'un couple, d'une vie commune, c'est complètement illusoire. Les conflits, les disputes, ça fait partie de la vie. Donc de ne pas voir le fait de se disputer comme un échec et d'apprendre petit à petit, entre guillemets, à bien se disputer. Ça veut dire quoi, bien se disputer ? Ça veut dire sans violence, évidemment sans violence physique, mais si possible sans violence verbale aussi. C'est-à-dire pouvoir exprimer sa colère avec force, avec intensité, parce que la colère est une émotion de feu, mais sans pour autant devenir...
blessant.
Voilà. Alors c'est pas facile non plus, ça s'apprend, mais c'est tout à fait possible. Et généralement, les couples apprécient le fait de pouvoir intégrer la réalité des disputes sans associer ça à « Oh mon Dieu, notre amour va mal ». Donc de pouvoir s'habituer de plus en plus à l'idée que c'est « normal », entre guillemets, de se disputer. Et effectivement, comme vous le disiez il y a un instant, c'est important aussi de pouvoir exprimer des moments où on n'a plus le sentiment d'être dans l'amour. Et même, parfois, ça peut être très utile d'oser nommer le désir qu'on a de se séparer. Parce que le fait de dire « je suis dans un moment où j'envisage de te quitter » ne veut pas dire qu'on va se quitter. Mm-hmm. Mais de pouvoir être dans la sincérité de ce qu'on vit à ce moment-là, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, le non-dit tue et la parole guérit. Mm-hmm. Donc cette parole-là qui n'est pas facile à entendre, qui n'est pas facile à exprimer, est aussi guérisseuse. Parce que c'est exprimé qu'on se donne l'espace de pouvoir passer à autre chose.
Oui, ça s'apprend, hein. C'est vraiment un long chemin. Les gens que vous receviez, vous les receviez sur une longue durée, sur plusieurs années, ou pas forcément? Des fois, c'était juste donner quelques petites clés et puis hop, c'est reparti.
Alors, ça dépendait un petit peu des couples, évidemment. Mmh. Mais bon, quand on s'installe comme psychothérapeute de couple, on a quand même des couples qui sont en souffrance, en grave souffrance et souvent en crise. Mmh. Et donc, il faut passer la crise d'abord et puis ensuite, on peut reconstruire la relation. Donc moi, je dirais que quand même, la moyenne, c'était entre 1 et 2 ans de suivi.
À raison d'un rendez-vous par mois.
Ça dépendait de la crise. Hein. Mm-hmm. S'il y a une grosse crise, c'est toutes les semaines. Mm-hmm. Pendant 3-4 semaines, un mois, c'est toutes les semaines. Et puis après, si au bout d'un mois ou deux mois, il n'y a rien qui bouge, le couple se sent exactement dans toujours cette même situation, alors moi, je me disais, soit c'est moi qui ne suis pas capable de vous aider, de vous accompagner, soit il faut peut-être regarder le fait que vous avez envie de vous séparer, en fait, et donc vous résistez à toute forme d'évolution. Et parfois, c'est ce qui est juste à faire. Hein. Donc, un thérapeute de couple, il n'est pas là pour,
sauver
le couple à tout prix. Il est là pour accompagner le questionnement des couples.
L'idée, avant tout, c'est d'accompagner chaque individu dans un chemin d'évolution, d'épanouissement.
Alors, thérapeute de couple, c'est d'accompagner le couple. Ce qui n'est pas facile. On ne s'adresse pas à deux individus, on s'adresse à une entité qui fonctionne bien et qui est en général complémentaire et qui, au moment des crises, ces complémentarités deviennent contradictoires et des oppositions. Et c'est là que ça blesse. Il y a un sketch de Florence Foresti qui est super là-dessus, où elle adore son nouveau compagnon qui joue de la guitare et après un an ou deux, je sais plus, elle supporte plus sa musique. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. On est complémentaires parce qu'il y en a un qui est structuré et puis il y a un autre qui est un peu plus
créatif.
Et voilà, ça se met ensemble. Maintenant, quand c'est de la crise, le structuré, il n'en peut plus du désordre du créatif et le créatif, il n'en peut plus de la rigidité du structuré. Mais on est toujours dans les deux mêmes personnes. Et alors, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que cette complémentarité ne fonctionne plus.
Qu'est-ce qui doit changer ?
Et qu'est-ce qui doit changer ?
Alors j'imagine que d'accompagner aussi toutes ces personnes, ça a dû vous aussi vous aider dans votre couple à effectivement travailler sur ces aspects, sur ces polarités qui des fois sont complémentaires et des fois sont opposées.
Je ne sais pas si ça nous a vraiment beaucoup aidé, mais ce qui est sûr, c'est que tous les livres que nous avons écrits, on les a appuyés, on les a fondés sur nos expériences personnelles. C'est-à-dire, on n'a jamais voulu écrire à propos d'un sujet dont nous n'aurions qu'une connaissance théorique. Donc, que ce soit la communication sexuelle entre nous deux, que ce soit les disputes, moi j'étais très peu colérique, Carole était davantage, donc on a dû apprendre tous les deux à rejoindre l'autre, à faire un pas vers l'autre, moi à exprimer mes colères, Carole à les exprimer différemment. Donc, ça n'est imaginable pour nous de n'écrire ou de ne faire de conférences que à propos de choses que nous avons personnellement vécues. Alors qu'il puisse y avoir à certains moments des couples dont le fonctionnement nous rappelle le nôtre, ou nous rappelait le nôtre, bien sûr que oui, mais je dirais pas que c'est la principale source de connaissances ou d'apprentissage.
Pour en revenir à la communication intime et donc purement sexuelle, vous parlez aussi d'inventer un vocabulaire propre au couple pour justement aller plus vite, parce que des fois, on va pas faire une longue tirade pour expliquer tous ses sentiments, ses ressentis, ses envies, ses peurs, etc. À force de bien se connaître, on peut aussi avoir des petits raccourcis, des petits mots qui sont compréhensibles pour chacun de nous comme un code un petit peu. Carole, est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, pas vraiment, je peux pas vraiment en parler dans la mesure où c'était vrai que c'était une phase dans notre vie et que maintenant on a continué notre vie, hein. On a écrit ce livre il y a quand même 20 ans maintenant,
oui,
je pense.
Exactement.
Et donc notre sexualité a évolué et ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'on communique verbalement moins.
D'accord.
Parce que on se connaît tellement bien et que un mouvement, par exemple, si Serge pose sa main sur mon épaule et que ça me convient pas, je vais juste bouger d'un demi-centimètre, j'ai l'impression, l'épaule, et tout de suite, il comprend, c'est ça lui convient pas, ou dans l'autre sens, la même chose. Donc, on est moins dans la communication verbale aujourd'hui. Et c'est intéressant aussi parce que ça va dans la direction de notre idée que la sexualité, elle est en évolution tout le temps dans une vie de couple. Et donc, c'est vrai que la parole a été extrêmement importante pour nous dans notre vie sexuelle pendant plusieurs années. Il a fallu vraiment mettre des mots longuement, reparler, encore parler, expérimenter, faire des feedbacks. Enfin, bon, c'était notre passion aussi de comprendre les outils puis de les transmettre après pour ceux qui fonctionnaient. Mais donc, voilà ce que j'en dis.
Maintenant, il reste qu'effectivement, quand on démarre la communication par les mots, les mots ne sont pas tout de suite faciles d'accès.
Et oui.
Parce qu'il y a beaucoup de pudeur aussi par rapport au vocabulaire sexuel.
Bien sûr. Donc, oser poser les mots, c'est pas simple en sexualité.
Oser dire, sucer, lécher, faire une pipe ou toutes ces choses qui font partie d'un certain vocabulaire sexuel, c'est pas forcément facile d'accès. D'où l'intérêt qu'il peut y avoir.
Et puis il y a plusieurs niveaux de vocabulaire. Il y a celui qui est un peu vulgaire, celui qui est un peu soutenu, celui qui est là. Et puis alors moi, comment j'ose parler, puis lui, comment il ose parler, puis sa façon de parler, moi ça me choque. Et
Un apprivoisement. Et il peut donc y avoir une phase utile qui est d'inventer son propre vocabulaire. Alors bon, on donne comme exemple dans le livre, plutôt que de dire « est-ce que je peux lécher ton sexe ?»« Est-ce que je peux papillonner ?» par exemple. Alors, ça n'a de sens que pour le couple, puisque c'est lui qui a décidé que c'était synonyme de...
De ça, oui.
Mais ça peut aider à installer
trouver nos petits mots à nous pour parler d'une chose. Il y avait un terme que j'avais bien aimé dans votre livre. Donc, effectivement, des fois, on a envie que la relation sexuelle dure longtemps, qu'elle s'épanouisse avec plein de préliminaires, que ça dure des heures, etc., qu'on prenne le temps. Et puis, il y a des moments, on a envie que ça aille vite, on a juste envie d'un petit coup, quoi. Et vous appelez ça un quickie. C'est très mignon. Et du coup, ça permet, juste en un mot, de dire à son partenaire où est-ce qu'on est, quoi. Là, je me situe plutôt sur un quickie, là. C'est vraiment 5 minutes parce que j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de me lever, j'ai envie de faire des choses. J'ai pas envie que ça s'étale en longueur, même si on est dimanche matin et qu'a priori, on aurait le temps. Mais moi, j'ai envie d'aller dans le jardin, j'ai envie d'autre chose. Du coup,
Et de le dire.
Parce qu'effectivement, si je le dis pas et que j'ose pas, mais du coup, je vais me laisser embarquer dans un truc qui me convient pas. Et puis après, comme vous le dites, ça crée de la rancœur. Et rien de pire que ça.
Et tu seras pas là. Tu seras pas présente dans le moment de la sexualité. Tu vas t'ennuyer parce que une partie de ton esprit sera ailleurs et ton partenaire va le sentir et blabla. Mm-hmm. Enfin, c'est pas grave parce qu'on peut en parler après en disant, ah, tu sais, ce matin, en fait, j'avais pas envie. Voilà, on peut toujours revenir.
Rattraper, revenir, etc.
C'est jamais rien grave, quoi. Pas faux. On fait comme on peut.
Et oui, parce qu'on apprend, hein. On n'a pas trop eu de modèle et on essaye, quoi. On fait comme on peut, ouais. Donc ça demande une grande indulgence.
Oui, beaucoup d'humilité.
C'est pas seulement ma voix qui chante, c'est d'autres voix, une foule de voix. Voix d'aujourd'hui ou d'autres voix, des voix marrantes, ensoleillées, désespérées, merveillées, voix déchirantes et brisées, voix souriantes et affolées, folles de douleur et de gaieté. C'est la voix d'un chagrin tout neuf, la voix de l'amour mort ou vif, la voix d'un pauvre fugitif, la voix d'un noyé qui fait plouf. C'est la voix d'une enfant qu'on gifle, c'est la voix d'un oiseau craintif, la voix d'un moine mort de froid sur le pavé de la rue de la joie.
Alors, on a vu tout à l'heure qu'il est important de se donner des rendez-vous pour se parler et surtout pour s'écouter dans le silence. Et il y a aussi, dans votre livre, vous parlez aussi des rendez-vous d'amour. Ce sont d'autres rendez-vous, ceux-là. De quoi s'agit-il, Serge ?
Donc, ce sont tout simplement des rendez-vous qu'on se donne avec l'intention de faire l'amour. Alors, la forme que ça prendra, on ne sait pas. On me disait tout à l'heure, faire l'amour, c'est beaucoup plus que la pénétration. Donc, ça ne veut pas forcément dire que ça doit inclure un moment de pénétration. Mais en tout cas, c'est un moment, un rendez-vous qu'on prend et où on mettra les corps en présence l'un de l'autre. On sera d'accord, on aura décidé qu'on met les corps nus en présence l'un de l'autre. Et puis qu'on verra ce qui se passe. Mais l'intérêt des rendez-vous, c'est de trouver, je dirais, une solution à une difficulté évidente qui sont les rythmes de vie qu'on a, les agendas très chargés, la vie professionnelle, les enfants, les sorties, les amis, le cinéma, le théâtre, enfin tout ça qui fait que le risque existe considérablement que faire l'amour soit en bas de la liste et que ça passe à l'as. Et que ça crée des frustrations, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a des résistances par rapport « Ah, mon Dieu, si je dois maintenant donner rendez-vous à ma femme pour faire l'amour avec elle, mon Dieu, on en est là ». Ben, c'est pas comme ça que c'est intéressant de le voir, parce que, au contraire, on peut voir ça, enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience, chic, j'ai rendez-vous avec ma femme après-demain pour faire l'amour, ça me détend, ça me rend joyeux de savoir que ça va se passer.
Il y a un moment qui est calé juste pour ça.
Plutôt que de rester dans, est-ce que c'est un bon jour, elle a l'air de bonne humeur, oui, peut-être ce soir, mais en même temps, on sait qu'on va rentrer tard, donc ça n'ira peut-être pas, mais ça fait quand même déjà beaucoup de jours qu'on n'a pas fait l'amour, et alors on se met à ruminer, et c'est pas bon pour l'atmosphère du couple. Donc le rendez-vous est vraiment quelque chose d'utile, et à partir du moment où on surmonte la résistance qu'on peut avoir en disant, mais c'est pas romantique, ben on s'aperçoit que les bénéfices sont considérables.
Oui, Carole.
Et aussi qu'on surmonte les peurs, parce que, en fait, on peut se cacher derrière, oui, mais c'est pas romantique et moi je veux que ce soit spontané. Mais en fait, on a peur. L'homme peut avoir peur de dire, oui, mais mon Dieu, moi je peux pas bander sur commande. Donc, si on se met au lit et que je bande pas, ou bien la femme peut se dire,
oui, mais si j'ai pas envie,
si j'ai pas envie, et si je mouille pas, je vais avoir mal, puis qu'est-ce que je vais devoir encore faire? Enfin, donc. Il y a aussi des peurs, et ça vaut la peine de les dire, et d'essayer de désamorcer ces peurs en disant, mais il n'y a pas d'obligation de rien, c'est juste... Voilà, alors nous, maintenant, évidemment, on n'a plus d'enfants à la maison, tout ça, on a beaucoup de temps, donc nos soirées, nos rendez-vous d'amour, c'est une fois par semaine, alors de nouveau, agenda, hein, c'est dans l'agenda, pour que ne pas... Maintenant, on a une vie de retraité, mais avant, on avait quand même des vies bien remplies, et je ne sais pas, lundi soir, je mets Serge dans mon agenda, et heureusement, parce que sinon, si j'ai une copine qui me téléphone et qui me dit « Ah, lundi soir, tu m'irais pas au cinéma avec moi ?» Je regarde mon agenda, il n'y a rien. Ben oui, je viens. Et si c'est écrit Serge, je peux lui dire « Ben non, ce soir-là, j'ai rendez-vous avec mon mari. » Et ça a beaucoup d'effets positifs dans la famille aussi. Moi, je vois... Mes nièces, par exemple, quand je dis ah non, ce soir, je peux pas, on peut pas se téléphoner parce que j'ai rendez-vous avec Serge. J'ai pas besoin de leur dire quoi et qu'est-ce. Elles savent très bien. Elles sont ravies. Elles me disent ah mais bon, alors bonne soirée. Elles sont tout contents. Hein.
Et puis même ça peut leur donner des idées aussi pour faire de même.
L'exemple. Mmh. Hein. Et donc là, ces soirées-là, ben nous, on se fait un petit repas, on boit une coupe de champagne. Après, on s'est préparé. Hein,
vous êtes fait tout beau. Vous fait sentez tout bon.
Voilà, voilà.
Vous mettez une petite bougie. De l'enfant, une musique douce.
Et puis on écoute de la musique, et puis ensuite on se met nu dans le lit, et voilà, ça se passe.
Et là, on ne sait pas ce qui se passe, ça dépend à chaque fois du moment.
Encore régulièrement, on se dit, ah, mais on n'avait jamais fait ça. C'est la première fois, alors que ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on fait l'amour très régulièrement.
Ah, magnifique, merci pour ce témoignage. Ça donne beaucoup d'espoir, effectivement, comme quoi c'est infini et qu'on est toujours. On peut toujours créer de nouvelles choses.
C'est pas chaque fois grandiose.
C'est pas chaque fois, mais...
c'est chaque fois très intime et avec beaucoup d'amour.
Alors, on va reparler de vos livres, hein, pour ceux qui souhaitent les consulter. Ils sont très chouettes et faciles à lire. Donc, moi, celui que j'ai en ma possession et que j'aime beaucoup, c'est donc « Mais tu ne m'avais jamais dit ça », c'était votre premier livre.
Oui.
Le second que vous avez écrit, c'est « La colère, cette émotion mal aimée ». On en a parlé, hein, comment exprimer sa colère à son amoureux ou à son détesté, des fois.
Oui.
En tout cas, sans le blesser, pour que ça puisse durer.
Oui. Ils sont détestés, j'aime bien.
Bah oui, faut pas oublier que la haine, hein, c'est seulement de l'amour frustré, hein, souvent. Hein, sinon, on n'aurait pas de haine. Et puis le troisième, c'est « Comment bien se disputer en couple ». Celui-là, il m'intéresse, j'ai bien envie de le lire. Ces trois livres sont publiés chez Jouvence, voilà. Et le quatrième, comme je l'avais dit tout à l'heure, il est téléchargeable gratuitement sur Internet. Il s'appelle « Couple rêvé, couple réel ». Et donc, on le trouve où, celui-ci ?
Alors, sur notre page Facebook, Serge et Carole Vidal-Graff, sur eBookstore, sur Amazon et sur Kobo, qui est le site de la FNAC.
Très bien.
Donc, c'est gratuit.
Et c'est gratuit, donc ça c'est super, il n'y a plus qu'à l'imprimer, hein, c'est ça. Hein.
Même
c'est...
Pas, on n'a même pas besoin de l'imprimer.
On le met sur la tablette ou l'iPhone et on se le lit quand on veut.
Voilà.
Est-ce qu'il vous semble qu'on a fait le tour de ce qui était le plus important à dire sur cette question de la communication intime ou est-ce qu'il manque une petite chose?
Moi j'aurais envie d'ajouter que, comme on le disait souvent en animant nos groupes, tout ça est extrêmement important mais pas du tout sérieux. Donc de garder quelque chose de léger, de ludique, même dans les moments difficiles. Il y en a des moments où on se décourage, des moments où on se dit « Oh, j'y arriverai jamais !» Des moments, effectivement, où le désir est moins intense, ou même parfois l'amour moins intense, mais que tout ça est traversable, à condition d'en parler. La parole guérit, le non-dit tue. Vraiment, ça, c'est quelque chose à quoi je continue à croire intensément.
Il faut, pour ça, vouloir profondément l'authenticité.
Oui.
Ça, c'est la base. Hein.
Oui.
La vouloir pour soi et partager cette envie mutuelle.
Absolument.
Et oui, c'est ça qui créera un monde meilleur, effectivement, si on souhaite chacun être authentique et partager nos vérités profondes. Merci beaucoup, Serge et Carole Vidal-Graff. Merci de m'avoir reçue.
Avec plaisir. Voilà, moi, j'ajouterais que vraiment, justement, avec cet allongement de la vie et ce nouveau concept du couple qui va durer longtemps, mieux vaut en fait envisager un compagnonnage d'amour plutôt qu'une passion.
Parce que la passion, c'est un peu la bougie qui brûle par les deux bouts et qui s'éteint vite, c'est ça?
Ben oui, même s'il y a des moments passionnés.
Mais la passion n'est pas éternelle.
C'est dur, une passion sur 60 ans. Par contre, un compagnonnage, c'est facile. Enfin, facile. C'est possible. Pour autant qu'on en ait envie. En tout cas, merci d'être venu.
Merci à vous.
Jusqu'à nous.
Ouais.
On est toujours ravis de partager.
Et
ravis de voir que notre livre qui... quand même maintenant à 20 ans,
Moi,
continue
à
inspirer les jeunes.
Tout à fait. Moi, je l'ai offert à des amis, je l'avais trouvé très inspirant. Merci beaucoup pour votre travail.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
My gang will get you.
Retrouvez les enfants du Nouveau Monde tous les mois sur Radio Fuse. Et en attendant la prochaine, retrouvez et téléchargez toutes mes interviews sur le site web au service du vivant.info.